Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Le quart d'heure de santé produite par le docteur Guillaume.
Bonjour.
Bonjour docteur. Alors, nous avons autrefois parlé d'une maladie qui est assez répandue. Eh bien, en voilà une autre dont on a aussi beaucoup parlé. Alors, je me lance, le chikungunya.
C'est exact, le chikungunya, c'est difficile à prononcer. Cette maladie, c'est la transcription phonique du mot utilisé en langage macondé qui signifie « l'homme qui marche penché en avant ». C'est la vision que l'on a de l'homme douloureux qui est cassé en deux par la douleur.
Ah, c'est une maladie virale aussi.
C'est une maladie virale. Le virus, c'est un organisme vivant, sans autonomie, qui est intracellulaire obligatoire pour survivre et se reproduire. La seconde condition de la survie de l'espèce virale est de ne pas mourir avec le réservoir de virus et de vivre un cycle de contamination dans un animal ou un homme où il pourra se reproduire en grande quantité. Cette notion de cycle est spécifique de beaucoup de maladies parasitaires et le chikungunya fait partie de ces maladies qui possèdent un cycle. Ainsi donc, le virus est dépendant de la transmission par un vecteur et c'est un moustique en l'occurrence.
Alors, quel est le réservoir du virus ?
Eh bien, c'est une population qui tolère ce portage sans souffrir de maladie. C'est une maladie animale, ce qu'on appelle une zoonose, une maladie animale. Les réservoirs sont les primates. Ce sont des singes et quelques autres mammifères, notamment les chauves-souris.
Alors, comment ce virus se transmet-il ?
Le vecteur, c'est le transmetteur de virus d'un réservoir qui est porteur sain à un autre animal ou à un homme, et c'est un moustique dont seule la femelle pique. Les moustiques sont du genre, je vous cite, Aedes alopictus et Aedes aegypti, ce qui n'est pas très parlant, mais ça veut dire que parmi toutes les espèces de moustiques, il y en a deux qui sont transmetteurs et les autres ne le sont pas. Elles sont en outre transmetteuses, les femelles qui piquent, de la dengue et de la fièvre jaune. Ainsi donc, si l'on revient au chikungunya, le moustique infecté devient contaminant 2 jours après sa propre infestation. Et il le reste jusqu'à la fin de sa vie qui dure 1 mois environ. Quant aux œufs pondus, ils sont rarement infestés par les virus. Le moustique est dépendant de l'écosystème dans lequel il vit, c'est-à-dire de la température et de l'hygrométrie. On le retrouve donc en Afrique, à La Réunion, en Amérique et aux Antilles, en Asie, en Inde. Et le réchauffement de la Terre lui a permis de s'acclimater dans le sud de l'Europe. Alors, donc le sud de l'Europe peut être infesté par le chikungunya.
Et alors, comment se fait la contamination ?
Alors, la contamination se conforme à un cycle. La transmission du virus d'un primate nécessite un moustique piqueur, qui est d'abord préleveur et ensuite injecteur. C'est le vecteur. La femelle moustique se nourrit de sang pour nourrir ses œufs. Le sang du primate est mélangé à la salive, qui empêche la formation d'un caillot de coagulation dans sa trompe. La femelle aspire le sang et avec tous les virus qu'il contient. Les virus investissent tous les organes du moustique et se multiplient considérablement. Ainsi donc, le virus est présent dans la salive injectée par la piqûre suivante de la femelle et contamine un animal ou un homme. Donc, la contamination directe d'homme à homme est impossible.
Mais c'est pas très drôle, ça, dites-moi.
Non, c'est assez préoccupant.
Venons-en à la maladie elle-même. Alors, combien de temps dure l'incubation ?
Alors, l'incubation dure de 4 à 7 jours, jusqu'à 10 jours parfois. L'invasion se manifeste par des douleurs intenses des membres de la colonne vertébrale qui confinent le malade à l'immobilité. Quant à la phase d'état, elle associe des douleurs musculaires et abdominales, des maux de tête, une éruption cutanée, une diarrhée, une conjonctivite, des ganglions. Il y a parfois des saignements de nez ou de gencives, mais ils sont bénins parce que ce n'est pas une fièvre hémorragique. L'évolution favorable est rapide et elle caractérise la forme bénigne, mais parfois la guérison tarde plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'où cette notion de maladie extrêmement douloureuse, l'homme cassé qui vit douloureusement.
D'accord. Alors, comment se fait le diagnostic ?
Alors, le diagnostic, il est clinique, il est lié à la géographie, à l'épidémie, à la symptomatologie. On ne le rencontre pas n'importe où. Quant à l'association de tous les symptômes, le diagnostic est facile à faire. L'association à la dengue et au paludisme est possible. Et le diagnostic de certitude est biologique.
Oui, c'est ça, il faut un laboratoire.
Mais quand la maladie apparaît Durant une épidémie, on a le diagnostic de certitude, de quasi-certitude, sans avoir les certitudes scientifiques.
Bien, nous allons faire une pause musicale. Nous sommes en train de parler du chikungunya et vous venez de nous donner le diagnostic, mais pas encore le diagnostic clinique.
Alors, les formes cliniques de cette maladie extrêmement douloureuse sont multiples. Il existe même une forme inapparente, sans symptômes, ce qui n'empêche pas d'être contaminé, ce qui n'empêche pas d'être contaminant pour le moustique qui vient vous repiquer. Quant aux formes infantiles, elles ressemblent à un syndrome grippal et n'ont pas de caractéristiques particulières. Ce qui est gênant, ce sont les formes prolongées, en mois, chroniques, qui sont graves et qui sont plutôt le fait de malades déjà fragilités. Quant à la mortalité, elle est cependant extrêmement faible.
Alors il existe un traitement quand même.
Le traitement est symptomatique, en l'absence de médicaments spécifiques contre le virus. Les prescriptions associent des fébrifuges, comme contre la fièvre, par exemple le paracétamol, des antalgiques, contre la douleur, et des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
C'est-à-dire
Je ne sais pas, le nurofen, l'ibuprofène,
les
corticoïdes si nécessaire et quelques autres encore. Et le traitement des complications est éventuellement, le fait des hospitaliers et c'est de la compétence des praticiens.
D'accord.
Quant à la convalescence, elle est longue, elle est prolongée jusqu'à plusieurs semaines, elle est fatigante, elle est douloureuse. L'immunité est acquise dès le 15e jour de la maladie, même les maladies inapparentes, et elle persiste plusieurs années, et on pense qu'elle persiste toute la vie, ce qui veut dire qu'on n'a pas deux fois la chikungunya dans la vie.
D'accord, est-ce qu'il existe une prévention alors ?
Alors la prévention de la contamination n'est pas vaccinale, puisqu'il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas non plus de traitement médicamenteux préventif comme on le fait dans le paludisme. La prévention personnelle se limite à la prévention de la piqûre de moustique. Les vêtements doivent être longs, ils doivent être couvrants, amples, imprégnés d'insecticides. Les répulsifs sont appliqués sur les parties de peau découvertes. Pour les sorties de soir, les serpentins fumigènes extérieurs sont utiles, mais les diffuseurs d'insecticides intérieurs et la moustiquaire sont aussi obligatoires. Quant à la prévention, c'est une préoccupation de tous les instants dont, hélas, l'efficacité est imparfaite. Quant à la prévention insecticide qui vise les moustiques et les gîtes largères, notamment par la chasse aux accumulations d'eau négligée, telles que de l'eau qui reste de la dernière pluie dans les boîtes de conserve abandonnées ouvertes dans les vieux pneus, et qui sont des gîtes larvaires extraordinairement riches de moustiques.
Alors, quand un voyageur revient d'un pays à risque.
Alors, la conduite à tenir est bien codifiée. Les pays chauds sont enchanteurs, c'est le ciel bleu, c'est la mer, la plage, la savane, la chaleur, le dépaysement, les bons souvenirs. Mais l'éventualité d'une contamination tardivement révélée n'est jamais nulle. Au retour, un bilan systématique n'est pas indispensable. Mais en cas de fièvre, d'éruption cutanée, de diarrhée, de patraquerie, consultez. Et si vous consultez le médecin, il faut y aller, non pas les mains dans les poches, mais avec le carnet de santé, le carnet de vaccination, l'ordonnance de prévention médicamenteuse des risques du lieu de séjour, les dates de résidence, les malades et soins reçus localement. Cela favorisera le travail diagnostique du médecin.
Alors, je vais vous demander, comme j'avais demandé pour l'Ebola, est-ce que la contamination est possible en Europe ?
Hélas, oui. Ce peut être un voyageur débarquant en incubation. C'est un cas importé. C'est lui le réservoir de virus. Il est potentiellement contaminant s'il rencontre un moustique qui sera le chaînon du cycle de transmission chez des autonomes européens. Et le chikungunya peut être importé en France. Mais ce peut être aussi un individu local non contaminé qui a été piqué par un moustique transmetteur porteur de virus. L'individu devient malade, il est infecté et il est potentiellement contaminant par la même espèce de moustique. Cette hypothèse a une probabilité de survenue très faible, mais non nulle. Et il est concevable même que ce cas de figure puisse être le premier cas d'une épidémie en France.
Alors en conclusion, docteur ?
Conclusion. La vie est un risque mortel et c'est même une certitude biologique à terme indéterminé. Le voyage est un risque et il convient d'en minimiser les conséquences. Préparez donc votre prochain voyage en y intégrant le volet santé. Je vous souhaite de bonnes vacances d'hiver. Amis fidèles, à bientôt. Vous pouvez nous écouter le jeudi de 11h15 à 11h15 et le dimanche à 16h sur Radio Grand Ciel, bien sûr. Et vous pouvez nous réécouter à toute heure sur www.radiograndciel.fr. À bientôt de vous retrouver.
J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'y ai planté mes ridimes créoles, des arômes polyrythmiques, des petites fleurs pentatoniques.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire, de lier toute magie à leur cause, ont leur façon de se taire.
À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'y récolterai des bouquets d'hymnes, des aurores métisses. Et le pollen de mes plantes insoumises s'en ira par la mer ensemencer d'autres friches.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire.
Sacré, voilà ta bouche, extrême aromate. Je suis ton corps jumeau. Aridité, je suis ta langue. Pour des cultures d'ondes millénaires, à la fête des vies.